La vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le magnifique et merveilleux nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous l'avez écouté, c'est bel et bien votre très chère émission, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission chrétienne, où uniquement la vérité biblique est proclamée. Oui, vous le savez déjà, l'heure de la vérité ne fait pas la promotion d'une religion, d'une dénomination ou d'un système religieux. L'heure de la vérité, c'est tout simplement cette mission chrétienne où la vérité biblique, la parole de Dieu, est proclamée sans compromis, sans détour, sans concession. Vous connaissez la vérité ? La vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Très-Haut qui nous donne ce merveilleux privilège, non seulement d'être encore parmi les vivants, mais surtout d'avoir ce merveilleux privilège de passer un peu de notre temps dans sa sainte présence et dans sa sainte parole. Car il est écrit qu'un moment dans les parvis du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Donc vous qui êtes à l'écoute, sachez que c'est une grâce que Dieu vous a accordée. Il n'y a rien de mieux que d'être en train d'écouter la bonne parole du Seigneur. D'ailleurs, beaucoup sont en train de se détruire dans des bars, dans des futilités, dans des choses qui ne peuvent point les aider ni les sauver. Mais quant à vous, vous qui nous écoutez, soyez bénis d'avance au nom du Seigneur Jésus. Parce que je crois que ce n'est pas en vain que vous êtes à l'écoute. Une fois de plus, puisque la parole de Dieu ne sort jamais en vain, vous ne manquerez pas d'être béni, d'être édifié. Pour vous servir, je suis, je reste et je demeure votre humble serviteur, le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Et comme toujours, cette émission se déroule sous l'œil très très vigilant et très très attentif de son excellence le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Et bien entendu, le Saint-Esprit est également au total contrôle. Je ne suis pas seul dans ce studio. Je vais donner une fois de plus l'opportunité à mon bien-aimé frère dans le Seigneur et de se présenter.
Moi, c'est le frère Yannick. Et je bénis tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à tout où ils sont en train de nous écouter. Je les bénis et je les prie de bien vouloir. Donc, ils soient bien connectés, car le Seigneur va vraiment les parler à partir d'ici. Amen.
Amen. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je voudrais particulièrement bénir tous ceux-là qui nous encouragent d'une manière ou de l'autre, que ce soit par des messages, que ce soit en venant personnellement, me voir pour féliciter, encourager. Je suis que la vérité divise et dérange, mais n'empêche qu'il y a quand même des gens qui sont édifiés, qui aiment la vérité et qui ne manquent pas d'encourager. Et vous tous qui aimez la vérité biblique, soyez vraiment bénis au nom du Seigneur Jésus. Même vous qui n'aimez pas la vérité biblique, même vous qui n'aimez pas particulièrement cette émission, n'empêche, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole du Dieu vivant. Il n'y a pas longtemps, je me suis adressé aux jeunes et nous allons continuer aujourd'hui à parler particulièrement du mariage compromis. Mais avant de continuer à nous entretenir sur ce sujet qu'est le mariage, je vais continuer à faire un clin d'œil à tous les jeunes qui nous écoutent ou qui se trouvent. Je vous encourage particulièrement, vous qui êtes étudiants, élèves, à prendre vos études au sérieux. Oui, faites tout pour être parmi les meilleurs, parce que quelque part votre avenir en dépend. Oui, faites tout pour être parmi les meilleurs. Prenez vos études vraiment au sérieux. Et vous qui êtes en train de suivre une formation professionnelle, je vous encourage vraiment à prendre également votre formation au sérieux. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être le meilleur dans sa catégorie. Oui, il n'y a vraiment rien de mieux. Au-dessus de tout cela, je voudrais également encourager vraiment les jeunes à se confier de tout le cœur au Seigneur. Parce que pour être réaliste, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, avoir un travail, mais avec parfois le salaire des misères que nous avons, vous ne pouvez pas toujours joindre les deux bouts. Ça, c'est une réalité. C'est pour dire que quoi? Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Peu importe notre travail, peu importe ce que nous pouvons gagner, mais la vérité c'est que si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas facilement nous en sortir. Avec la vie qui devient de plus en plus chère, parfois on peut avoir un travail décent, gagner de l'argent, mais ne pas réussir toujours à résoudre tous ces problèmes. Pas sans tarder, nous allons lire dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5. Frère Yannick, tu peux lire pour nous Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, au verset 8.
Jérémie 17, à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit, parole du Seigneur.
Amen. Je bénis particulièrement le Seigneur pour nos autorités, pour le gouvernement, pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir aider les jeunes d'une manière ou de l'autre à sortir de la misère, de la pauvreté. Je bénis particulièrement le Seigneur pour ce que le gouvernement fait pour pouvoir améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Mais je voudrais dire que, très chers fonctionnaires, très chers jeunes, vous ne devez pas compter uniquement sur l'État pour résoudre vos problèmes. Vous devez vous confier avant tout au Seigneur. La Bible nous dit ici que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si vous vous confiez uniquement dans l'homme, je suis sûr que vous serez toujours déçu. Lorsque nous voyons parfois les gens marcher, défiler, que ce soit dans notre pays et un peu partout dans le monde entier, parce qu'ils ne sont pas du tout contents, que ce soit de leur salaire ou des conditions de leur travail, quelque part, c'est parce qu'ils se sont tellement confiés aux hommes. Oui, l'État doit faire son travail, le gouvernement doit faire son travail, mais n'empêche, je vous encourage personnellement à vous confier beaucoup plus au Seigneur, avant toute autre personne, avant le gouvernement, avant l'État. Et la Bible nous dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter ce fruit. Donc nous voyons que nous avons tout à gagner à nous confier de tout notre cœur à l'Éternel et non de nous confier aux hommes. Vraiment que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous encourage une fois de plus à avoir un stylo et sur quoi noter, parce que le désir de nos cœurs, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu et non sur les doctrines humaines. Nous allons parler du mariage, je l'ai promis, et je vais également m'adresser aux jeunes, puisqu'ils sont également concernés par ce sujet très important qu'est le mariage. Allô? Allô?
Allô?
Oui?
Le canal de Bangwa.
Oui.
Bon, j'ai compris vos questions. Je voudrais que vous priez pour moi.
Oui, votre problème c'est quoi? Et votre nom?
J'ai particulièrement mal au baba.
Et votre nom c'est qui?
Daniel.
Daniel.
Chanel.
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 Oui.
Ok, vous avez mal au bas ventre. D'accord, comme promis.
Il y a aussi les souris qui perturbent dans la nuit.
Les souris?
Oui.
Ah, d'accord. Ok, si ces souris sont des souris ordinaires, nous croyons que il y a des remèdes appropriés pour pouvoir exterminer ces souris. Et si ce sont des souris mystiques, nous allons prier. Et ces souris vont cesser d'embêter cette maison. Seigneur Jésus, je te présente particulièrement Chanel qui vient d'appeler parce qu'elle a mal au ventre. Et crois, Seigneur, que tu peux la guérir. C'est pour cette raison qu'elle a appelé. Seigneur, étant ta puissante main de guérison, toi qui n'as pas changé, et que par ta grâce, elle retrouve le soulagement le plus tôt possible. Seigneur, peu importe l'origine de ce mal, nous ne voulons même pas du tout savoir. Nous voulons seulement que tu agisses, que tu interviennes et que tu te glorifies.
Amen.
Merci Seigneur. Même par rapport à ces souris, nous ne savons pas si ces souris sont d'origine mystique ou pas. De toutes les façons, Père, prends le total contrôle. Et si ces souris sont d'origine mystique, que ces souris soient exterminées totalement au nom puissant du Seigneur Jésus.
Amen.
Et que désormais, il n'y ait plus de souris qui vont perturber cette maison. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Allô? Allô? Nous allons continuer. Je disais tantôt que nous allons parler du mariage et ce sujet est très intéressant, concerne également les jeunes. Ce que je voudrais particulièrement dire aux jeunes, c'est que le Seigneur tient à ce que vous vous mariez, étant encore vierge, pour ceux qui sont encore vierges. Oui, très jeunes gens, vous qui êtes encore vierge, vous qui avez encore la grâce d'être vierge, sachez que le Seigneur tient à votre virginité. Il tient à ce que vous alliez en mariage étant encore vierge. Beaucoup ne le savent pas. Et nous allons également nous tourner dans les Saintes Écritures pour voir que Dieu tenait vraiment cela à cœur. Que les jeunes filles aillent en mariage étant vierges. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13, que vous pouvez noter. Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13. Frère Yannick, si tu es à la page, tu peux lire nous tous.
Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité.
Allô?
Et...
Oui? Oui. Votre problème, c'est quoi? Vous deviez préciser votre problème afin que nous puissions orienter notre prière comme cela se doit. Oui, mon frère, tu peux continuer la lecture. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13.
Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité.
Allô? Allô? Oui, mon frère, tu peux continuer la lecture?
Les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a pris en aversion. Il lui a imputé des choses criminelles, en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Parole du Seigneur.
Amen. Donc, très chers gens, vous qui êtes encore vierges, nous voyons vraiment dans cette portion de Sainte Écriture qu'en Israël, lorsque une jeune femme perdait sa virginité et courait le risque d'être carrément lapidé. Cela montre tout simplement que Dieu tenait à ce que les jeunes filles aillent en mariage étant vierges. Et sur ce principe, Dieu n'a pas changé. Jusqu'à ce jour, Dieu tient à ce que les jeunes gens aillent en mariage étant vierges. Donc, vous qui êtes encore vierges, ne vous précipitez pas à avoir des relations sexuelles, peu importe ce que les gens vont faire autour de vous pour vous amener à perdre votre virginité. Oui, écoutez très bien ce que je dis. Ne vous laissez pas séduire et emporter par tout ce que vous voyez à la télé, les séries et tout ce que vous voyez autour de vous. Si vous êtes encore vierge, c'est une grâce de Dieu. Gardez votre virginité. Si vous vous mariez étant vierge, une grâce exceptionnelle du Seigneur sera sur vous. Si Dieu avait donné une loi qui ordonnait que l'on lapide même une femme qui ne s'était pas trouvée vierge alors qu'elle n'était pas encore mariée, c'était juste pour dire que il n'avait jamais prévu, Dieu n'avait jamais prévu dans son plan que les gens aillent en mariage ayant déjà connu des hommes par-ci et par-là. Ce qui est tout à fait normal. Quel homme ne sera pas fier d'épouser une femme qui est encore vierge? Et vice-versa, bien entendu, y compris pour les hommes aussi. Oui, c'est très très important. Parce que nous voyons que le mal va grandissant, le monde devient de plus en plus pervers. Et tout ce qu'on nous montre à la télé encourage parfois les jeunes enfants à se prostituer ou à se livrer à toutes sortes de pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, particulièrement en ayant des relations sexuelles, étant très très jeunes, des relations sexuelles hors mariage, en dehors du fait que Dieu condamne cela, n'en parlons pas des risques que les gens courent en ayant des relations sexuelles hors mariage, le fameux VIH-Sida, les maladies sexuellement transmissibles, et les grossesses précoces, parfois qui hypothèquent l'avenir des jeunes filles, parfois des jeunes élèves qui se trouvent papa alors qu'ils sont encore sous le toit de leurs parents. Nous voyons que même le minimum du bon sens voudrait que les gens se réservent, que les jeunes gens gardent leur virginité. Vous qui avez déjà perdu votre virginité, c'est un péché grave, même si vous ne le savez pas. C'est un péché très très grave. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu pour votre vie, d'avoir des relations sexuelles avant d'être marié. Qu'à cela ne tienne, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il est écrit. Frère Yannick, tu peux lire 1 Jean chapitre 1, le verset 9.
1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et surtout pour nous purifier. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, vous, jeunes gens, vous qui n'êtes plus vierge alors que vous n'êtes pas du tout marié, vous deviez confesser ce péché devant Dieu. Vous deviez vous repentir. Et le Seigneur dit qu'il est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier. Donc il n'y a que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix, qui doit maintenant agir dans votre vie pour vous purifier et pour vous sanctifier. Donc prenez conscience que ce que vous avez fait était un péché devant Dieu. Déjà la dernière fois, je disais, lorsque je parlais du mariage, ainsi que la femme n'est pas, ou bien le corps de la femme n'est pas comme les arachides, que n'importe qui doit goûter. Non. Chère jeune fille, vous n'êtes pas les arachides que n'importe qui doit goûter. Vous devez vous réserver uniquement pour votre mari, s'il arrive qu'un jour, le Seigneur vous accorde la grâce de vous marier. Étant donné que ce n'est pas obligé que tout le monde se marie. C'est ce qui est également écrit. D'ailleurs, nous allons y revenir par la grâce de Dieu. Oui, c'était vraiment pour faire un clin d'œil aux jeunes gens, particulièrement ceux-là qui sont encore vierges, que gardez votre virginité. Dieu apprécie particulièrement cela et il ne manquera pas de vous bénir d'une manière spéciale si vous préservez jusqu'au mariage. Et ceux qui ne sont plus vierges, repentez-vous, demandez sincèrement pardon à Dieu, demandez à Dieu de vous purifier et prenez l'engagement de ne plus avoir des relations sexuelles avant d'avoir été marié. C'est très très important. Et je tiens également à dire à ceux-là qui sont encore vierges que parfois certaines filles qui ont perdu leur virginité vous poussent à savoir perdre également votre virginité parce qu'elles savent qu'elles ont perdu quelque chose que vous avez encore. Ne cédez pas ne cédez pas. Parfois, c'est la jalousie qui les pousse à vous amener à avoir aussi des relations sexuelles comme elles pour pouvoir perdre votre virginité. Et parfois, les rumeurs courent que lorsqu'une fille est encore vieille jusqu'à un certain âge, elle peut devenir malade. C'est le mensonge du diable. Même scientifiquement, c'est prouvé que le fait d'être vierge, même jusqu'à 30 ans, 40 ans, ne peut pas rendre quelqu'un malade. Oui, vous pouvez aller à l'hôpital et poser cette question aux médecins. S'ils sont sincères, ils vous diront que c'est la vérité. Je vais lire ce message. Je veux que vous m'appreniez comment commencer une prière. Iko de Ndiki. En fait, la prière, la définition la plus simple de la prière, c'est juste parler à Dieu. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est parler à Dieu. Comme un enfant parle à son père. Donc, de façon naturelle, lorsque vous voulez prier, dites-vous que vous êtes en train de vous adresser à votre père. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre père qui est au ciel. Donc, Dieu est avant tout notre père. Et nous sommes ses enfants. Donc, vous deviez vous adresser à Dieu comme un père. Et en réalité, dans une maison, quand un enfant veut s'adresser à son père, il n'a pas besoin d'apprendre cela dans un livre ou de faire une récitation. La prière, c'est la même chose, de façon spontanée. Vous dites à Dieu quel est votre besoin et le Seigneur vous écoutera et il agira. Donc la définition la plus simple, c'est parler à Dieu. Lorsque vous voulez prier, dites tout simplement à Dieu quel est votre désir, quel est le besoin de votre cœur, comme si vous étiez en train de vous adresser à votre Père. Alors, cette différence, c'est que Dieu est le Père céleste, et vous devez vous approcher de lui dans une attitude de respect, de révérence, parce qu'il est un Dieu très, très saint. Allô?
Allô?
Oui, je vous écoute.
Oui, allô?
Oui, je vous écoute.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que le mariage est consumé et fait créer des relations sexuelles avant de se marier n'est pas bien.
Oui.
Je ne suis pas en train de vouloir dévier la parole de Dieu, mais je suis juste en train de demander, vous savez, dans les enseignements catéchistes, on ne demande réellement cela. Mais il s'agit que quand arrive qu'une fille ou un garçon s'est détourné de ses chemins, on ne sait pas des mauvaises camaraderies, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Oui, j'ai été clair à ce sujet. La seule chose qui reste à faire, c'est reconnaître devant Dieu qu'on s'est détourné du droit chemin, confesser ses péchés à Dieu et demander pardon. Et la Bible nous dit que à cause de Jésus qui est mort pour nos péchés, son sang va nous purifier, nous sanctifier, et on doit tout simplement prendre les engagements afin de ne plus retourner dans ce péché. Je crois que c'est aussi simple que ça.
Oui. Et bien, par rapport au petit problème.
Oui, nous suivons.
Et juste par rapport, parce que il y a peut-être personnes, particulièrement les filles.
Oui.
Les filles chrétiennes qui sont à l'église. Et bon, dans ce genre d'église, ça arrive et c'est souvent pas les grossesses. Comme il y a l'influence de l'enseignement religieux qui coule directement aux grossesses. Donc, il y a les grossesses et directement, il y a l'influence de l'enseignement religieux qui voulait écouter ou avorter. Bon, il fallait aussi donner les conseils pratiques. Même aux parents, même aux jeunes, comment se comporter face à ces choses.
Oui, justement, parfois, ce qui compte devant Dieu, ce n'est même pas le péché qu'on a commis, mais c'est l'attitude qu'on a envers ce péché. Parce que parfois, on peut aggraver la situation. Si une jeune fille, par exemple, s'est détournée du droit chemin et se retrouve enceinte, si elle pense même seulement qu'elle doit avorter, c'est aggraver sa situation. Parce que maintenant, elle va commettre un meurtre qui est même encore même pire que le péché qu'elle a commis en étant enceinte. Donc, quand il arrive qu'une jeune fille tombe enceinte, la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de reconnaître ce tort devant Dieu et le supplier en implorant sa grâce, afin qu'il puisse permettre que cet enfant, qui n'a pas demandé à venir au monde, vienne au monde dans les bonnes conditions, et que l'on prenne soin de lui parce que c'est un être vivant. Et les parents doivent également comprendre cela. Quand il arrive qu'un enfant tombe dans ce piège, ce n'est pas en jetant l'enfant, ce n'est pas en demandant à l'enfant d'avorter que l'on l'aide. Non, au contraire, on aggrave tout simplement la situation. Parce qu'on va maintenant ajouter péché sur péché, particulièrement le péché de meurtre ou de crime, ce qui est encore très très grave. La parole de Dieu est claire et formelle, tu ne tueras point. Vous écoutez l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission chrétienne où la vérité biblique est proclamée sans compromis, sans concession. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus Christ. Et nous sommes en train de parler du mariage. Déjà, lorsque j'avais planté le décor concernant le mariage, j'avais dit qu'à la lumière des Saintes Écritures, le mariage c'est avant tout une fête familiale et non une fête religieuse. Oui, c'est une fête familiale. Beaucoup de versets avaient été lus dans les Saintes Écritures pour prouver que c'était vraiment une fête familiale. Parce que parfois, en ne comprenant pas ces choses, on tend à rendre la chose tellement religieuse qu'on met de côté parfois les véritables acteurs qui sont les parents. Et nous avons vu que même Jésus lui-même avait assisté à un mariage et curieusement, il n'a même pas du tout prêché ce jour. Il a tout simplement donné à boire aux gens. Et dans la Bible, nous n'avons pas vu que ce soit un pasteur ou un prophète ou même un apôtre et béni d'une façon spéciale un mariage afin qu'elle soit bénie. Et il y a ce message, si une fille ne part pas en mariage, et est-ce qu'elle peut garder sa virginité jusqu'à sa mort? Roger de Ndiki. Oui, nous allons répondre à cette préoccupation en nous tournant également dans les Saintes Écritures. Oui, nous allons nous tourner également dans les Saintes Écritures. Nous allons lire par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25 au verset 35. Puis 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25 au verset 35, et aussi Ésaïe 56, à partir du verset 3 au verset 5. Et nous allons lire. Je le disais tantôt, ce n'est pas obligé que tout le monde se marie. Ce n'est pas obligé. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25 au verset 35. Frère Yannick, tu peux lire.
Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction.
Amen. Dans cette portion sans écriture, la Bible nous fait clairement comprendre que le mariage a des contraintes. Lorsqu'on se marie déjà, on est obligé de tenir compte qu'on a des responsabilités. Oui, On a des responsabilités dans son foyer qu'on doit assumer pour ne pas pécher contre Dieu. Et la Bible nous dit par contre que cette personne qui n'est pas encore mariée, ça peut être l'homme ou la femme, normalement s'inquiète beaucoup plus des choses du Seigneur. Oui, c'est ce que la Bible enseigne ici. Donc une fille qui ne peut bien mourir en gardant sa virginité tout en se consacrant totalement au Seigneur, comme la Bible a dit ici, esprit, âme et corps pour le Seigneur, en s'inquiétant beaucoup plus des choses du Seigneur que de s'inquiéter des choses du foyer. Je crois que la parole de Dieu est suffisamment claire à ces niveaux. Et la deuxième portion de Sainte Écriture, qu'on lit, c'est dans Ésaïe 56, à partir du verset 3, que je peux lire pour nous tous. Nous sommes dans Ésaïe 56, à partir du verset 3, qui dit ceci, à partir de la deuxième partie, « Que les eunuques ne disent pas, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. » Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Oui, la Bible est claire et formelle. C'est Dieu ici qui dit que ceux-là qui ne sont pas mariés, qui ne disent pas que non, nous sommes comme un arbre sec. Mais au contraire, Dieu lui-même a dit que ces personnes qui ne sont pas mariées, si c'est pour se consacrer à lui, si c'est pour le servir en esprit, en vérité, la Bible nous dit que Dieu donnerait dans sa maison et dans ses murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Vous écoutez toujours l'heure de la vérité. Et je disais aussi la dernière fois que le mariage étant une institution divine, nous devions naturellement nous tourner vers le Créateur lorsqu'il s'agit du mariage. Si les foyers sont brisés, s'il y a les mariages ratés, c'est tout simplement parce que les hommes prennent cela à la légère et surtout s'engagent sans tenir compte des conseils de Dieu et de la parole de Dieu. Et la famille étant la cellule de base de la société, quand cette cellule n'est pas sur le bon fondement, la société vraiment sera malade. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle mariage, on est obligé d'ouvrir la parole de Dieu pour être éclairé. Parce que Dieu, étant l'auteur du mariage, est bien placé pour nous conseiller, pour nous éclairer et pour guider et nos pas. Et nous avons également vu que le mariage étant un sujet très très sérieux, on doit s'asseoir et voir que le chemin sur lequel on est en train de s'engager, ce n'est pas l'amusement, c'est un chemin de non-retour, parce que je tiens à préciser qu'on se marie une seule fois aux yeux de Dieu. D'ailleurs, nous allons lire la parole de Dieu pour confirmer cela. Oui, on se marie une seule fois aux yeux de Dieu. C'est pour cette raison qu'on doit réfléchir correctement avant de s'engager sur ce chemin. Un message, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à apprendre. Priez pour moi, Eric et Moya. Ok, nous allons prier tout à l'heure. Et dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 23, nous avons lu cela la dernière fois. Et nous avons également vu que Dieu, dans cette portion de Sainte Écriture, avait donné une seule femme à Adam. Et c'est avec cette femme qu'il devait peupler toute la terre. Et Dieu n'avait pas donné plusieurs femmes à Adam. Et pourtant, il avait la charge de remplir toute la terre. Cela veut dire également que Dieu, dans son plan parfait, n'avait pas du tout prévu la polygamie. Et dans son plan parfait. Malheureusement, même dans la Bible, on a vu que des gens sont engagés tout de même à avoir plusieurs femmes, particulièrement les rois, et même le roi Salomon, qui avait plus de 700 femmes et 300 concubines, mais c'était tout simplement la désobéissance. Et ce message, comme il n'y a pas de filles vierges aujourd'hui, que feront les hommes pour le mariage? De toutes les façons, il n'y a pas seulement que des filles qui ne sont pas vierges, il y a également beaucoup d'hommes qui ne sont pas du tout vierges. L'homme ne doit pas tellement être exigeant dans ce domaine, puisque lui-même, il n'est pas parfait. Mais si un homme peut tomber sur une femme qui est vierge, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour autant que les hommes doivent passer leur temps à chercher seulement une fille qui est vierge. Une fille qui a perdu sa virginité reste toujours une femme digne et qui a le droit d'aimer un homme et de se marier, de fonder une famille. Donc ce n'est pas parce qu'une fille n'est pas vierge qu'elle n'est plus du tout une personne normale. C'est juste que c'est un péché qu'elle a commis. c'est tout. Et qu'elle doit tout simplement confesser et abandonner. C'est un péché comme tous les autres. Et à la lumière des Saintes Écritures, je disais tantôt que dans le plan parfait de Dieu, il n'avait pas prévu la polygamie, n'empêche. Les polygames peuvent également être sauvés s'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur permet, nous allons consacrer une émission spécialement à cette affaire de polygamie et comment gérer et tout cela à la lumière des Saintes Écritures. Et nous pouvons également remarquer que, comme je le disais tantôt, le mariage étant une fête avant tout familiale, ce sont les parents qui se chargeaient de bénir les enfants lorsqu'ils les envoyaient en mariage. Oui, c'était les parents. C'était les parents. Aujourd'hui, parfois, certaines personnes négligent cela en allant se marier sans tenir compte même des conseils des parents ou de l'avis des parents. Parfois, même dans les églises, ce sont les pasteurs et les hommes de Dieu qui sont à la première place et les parents loin derrière, ce n'est pas normal. Ça, c'est un jour spécial où les parents doivent vraiment être honorés parce qu'ils sont en train d'envoyer leurs filles en mariage. Ils doivent être vraiment honorés et à la première place. Il faut vraiment le savoir. Et toutes les bénédictions que les parents prononcent sur les filles lorsqu'elles acceptent de les envoyer en mariage vont se produire et se réaliser dans leur vie. Oui, nous avons également lu tout cela la dernière fois, particulièrement dans Genèse chapitre 24 à partir du verset 57, verset 60, et Genèse chapitre 29. Et nous avons lu tous ces versets bibliques. Et nous allons également remarquer que lorsqu'on parle de mariage, on ne peut pas ne pas parler de la dot. Lorsqu'on lit attentivement les Saintes Écritures, on se rend compte que la dot, c'était juste un cadeau que l'homme ou la belle famille donnait aux parents de la fille. Je dis bien un présent, un cadeau. C'est ce que la Bible nous fait clairement remarquer. Nous pouvons lire, par exemple, quelques versets, bien vous pouvez relever et après lire compte tenu du temps. Par exemple, dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 50 au verset 54, Genèse 29, le verset 18, Genèse 34, à partir du verset 11 au verset 12. Oui, je disais tantôt que c'était un présent que l'homme ou les parents de l'homme donnaient aux parents de la fille. Et ces cadeaux pouvaient varier selon les richesses. Bon, malheureusement, de nos jours, parfois les gens utilisent la dot comme s'ils vendaient carrément leurs enfants ou leurs filles. Ce n'est pas normal. Parce que un homme, une personne n'a pas de prix. Une personne n'a pas de prix. Je connais des zones où les jeunes filles ne peuvent pas facilement aller en mariage à cause des dots exorbitantes que l'on demande à l'homme. Et si cet homme est pauvre, tant pis pour lui. Il ne pourra jamais épouser cette fille, malgré le fait qu'il aime cette fille de tout son cœur. Ce n'est pas normal. Vous tous, chers parents, la dot, selon la Bible, c'était juste un cadeau que l'homme donnait aux parents pour les féliciter d'avoir élevé leur fille et surtout de l'avoir éduquée sur le droit chemin et d'avoir permis qu'elle aille en mariage. Et comme je disais tantôt, ce cadeau pouvait varier, ça dépendait. Naturellement, un multimillionnaire ou bien un multimilliardaire, s'il veut faire un cadeau, nous pouvons imaginer quel est ce genre de cadeau qu'il peut faire. La seule chose que vous deviez chercher à savoir, c'est si c'est dans le plan de Dieu que votre fille épouse cette personne. Si vous vous rendez compte que c'est vraiment dans le plan de Dieu que votre fille épouse cette personne, même s'il n'est pas riche, ne vous en faites pas. Quelqu'un peut ne pas être riche aujourd'hui et demain devenir multimilliardaire. Oui, le fait que quelqu'un soit pauvre aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va demeurer pauvre toute sa vie. Oui, donc ne mettez pas cela au premier plan lorsqu'il s'agit de la dot. Et je tiens également à dire aux hommes que lorsque vous allez chercher une femme, comme je le disais tantôt, le mariage étant une fête familiale, même si la famille vous exige une dot exorbitante, ne vous fâchez pas, ne les insultez pas. Essayez tout simplement de chercher un terrain d'entente, c'est tout. Oui, vous pouvez négocier, la dot se négocie. Oui, ne dites pas que parce que la dot est tellement exorbitante, vous allez prendre la fille et aller sans même dire au revoir aux parents. Non, ce n'est pas du tout bien. Il faut seulement essayer de dialoguer et de trouver un compromis. D'ailleurs, on dit souvent que la dot ne finit pas. Oui, parfois vous pouvez vous entendre avec la famille, le peu que vous avez, vous pouvez donner et promettre de repasser dès que le Seigneur rendra cela possible. Tous ces petits conseils pratiques sont parfois nécessaires parce qu'il y a parfois des erreurs que nous pouvons commettre sans le savoir et qui peuvent influencer négativement le mariage. S'il n'est pas important de voir quelqu'un pour célébrer le mariage, que doit-on faire donc? Comme je le disais tantôt, que le mariage étant avant tout une fête familiale, à vrai dire, lorsque au niveau de la famille, tout est en règle, c'est à la famille de décider que tel jour, de façon officielle, nous allons donner notre fille à telle personne comme femme. Et lorsque la famille organise, c'est ce qu'on appelle vulgairement mariage coutumier. Lorsque la famille prend cela en main et organise une fête dans ce sens, en réalité, selon les Saintes Écritures, dès que cette famille finit cette cérémonie en disant qu'à partir de ce jour, nous donnons notre fille à telle personne, aux yeux de Dieu, vous êtes déjà mariés. Aux yeux de Dieu, bibliquement parlant. Maintenant, si vous êtes chrétien, par exemple, c'est tout à fait normal que vous puissiez organiser une fête, peut-être même à l'assemblée, et vous réjouir ensemble, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les autres chrétiens et tout le monde. Là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas croire que c'est lorsque un prophète ou un apôtre ou un prêtre va bénir le mariage que ce mariage sera béni. Non, on ne voit pas une telle chose dans la Sainte Parole de Dieu. Mais ce n'est pas un péché si un pasteur ou un prophète, un homme de Dieu prie pour les mariés, ce n'est pas un péché. C'est juste qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Oui, la Bible ne nous dit pas que pour qu'un mariage soit considéré aux yeux de Dieu, il faut que, automatiquement que ce soit béni à l'église. Non, la Bible ne nous dit pas. Sinon, nos parents qui ont fait des bons mariages, qui ne partaient pas à l'église et qui ont été bénis par Dieu, parce que ils ont essayé de respecter certaines normes. Et Dieu a considéré leur mariage et les a bénis, malgré le fait qu'ils ne croyaient même pas, je vais dire, qu'ils n'étaient même pas du tout chrétiens, ou bien qu'ils ne partaient même pas à l'église. Le rôle des serviteurs de Dieu consiste beaucoup plus maintenant à dire aux mariés ce qu'ils doivent faire, à les enseigner la parole de Dieu, à les enseigner ce que le mariage, à les donner la bonne conduite à tenir selon les Saintes Écritures. Voilà le rôle principal des serviteurs de Dieu en ce qui concerne le mariage. Oui, voilà leur rôle principal. Et bien entendu, je tiens toujours à dire que le fait qu'un homme de Dieu prie pour les mariés, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas cette prière qui va officialiser le mariage. Ce sont les parents qui, en étant d'accord, qui en acceptant, qui en donnant de tous les cœurs les filles en mariage, qui bénissent le mariage. Parce que le mariage déjà en lui-même est une bénédiction. Oui, le mariage déjà en lui-même, c'est une grande bénédiction. Et c'est très important parce que j'ai vu beaucoup de gens être tellement frustrés dans les foyers parce que ces personnes n'étaient pas parties bénir les mariages à l'église, alors qu'ils s'étaient mariés vraiment dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, parce qu'ils ne sont pas partis à l'église, ces personnes sont frustrées et se disent, non, c'est le jour que je vais porter une robe blanche, aller à l'église, que je serai vraiment béni et marié aux yeux de Dieu. Non, non. Enlevez de vos têtes tout cela. Parfois, les gens sont prêts à payer même d'énormes sommes pour aller célébrer les mariages à l'église, alors qu'ils n'ont même pas encore à cœur de recevoir Jésus pour être sauvés, alors qu'ils n'ont même pas à cœur de marcher selon la parole de Dieu. Non, le plus important, c'est de chercher à marcher selon la parole de Dieu. Si vous vous efforcez de marcher selon la parole de Dieu, cela est déjà une bénédiction pour vous. Il n'y aura pas de raison que vous ne soyez pas bénis. Parce que la bénédiction vient dans le fait que nous craignons Dieu et que nous efforçons de pratiquer sa sainte parole. Je veux une prière, c'est un message, je veux que vous priez pour le repos un peu de l'âme de mon père, de ma mère, et pour tous les membres de mes époux, tous mes amis, bref, tous mes problèmes. J'ai tenu à lire directement ce message pour dire qu'en réalité, ceux qui sont morts, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous n'avons pas besoin de prier pour ceux qui sont déjà morts. S'ils sont morts dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils se reposent de leurs œuvres. Et le Seigneur se chargera de les prendre tout près de lui. Chacun doit choisir sa destination pendant qu'il est encore vivant. Très chers auditeurs, vous écoutez l'heure de la vérité. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission de séjour. Le temps étant contre nous, il y a ce sujet de prière qui afflue. Et nous allons prier. Et si le Seigneur permet, prochainement nous allons continuer. Toujours sur ce sujet que le mariage qui est tellement très très intéressant. Ce message... Elle me demande de venir dans sa religion pour m'accepter comme fiancé. Pourquoi? La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas d'abord au préalable. Donc vous deviez d'abord être d'accord sur beaucoup de choses avant de vous engager dans le mariage. Si déjà vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de choses, il y a à parier que même après le mariage, vous ne serez pas en paix. Donc vous deviez d'abord vous asseoir et chercher un compromis, à être d'abord d'accord sur beaucoup de choses, sur certains principes, avant de vous engager dans le mariage. C'est très très important. Comme vous l'avez constaté, très chers auditeurs, le temps est contre nous. Nous allons nous séparer d'un moment à l'autre, mais avant de nous séparer, je vais prier pour tous ces auditeurs qui ont envoyé des différents messages avec des différents problèmes. Ces messages... La plupart, certains n'avaient pas de nom. Je vais juste présenter tous ceux-là qui ont envoyé ce message au Seigneur. Seigneur Jésus, je te présente ces auditeurs, auditrices qui ont envoyé ces différents messages avec des différents problèmes. Seigneur, particulièrement cet auditeur qui a des problèmes de yeux. Père, tu les connais tous, chacun dans sa situation. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté à leur égard en intervenant puissamment. Ô Dieu, toi qui es le Dieu des solutions, Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout, rien n'était impossible. Agis et que toute la gloire te revienne. Seigneur Jésus, il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu n'as pas changé.
Seigneur,
agis, ne serait-ce que pour leur montrer que tu es vivant et que tous ceux qui se confient en toi ne sont point déçus ni confus.
Amen.
Seigneur Jésus, merci. Seigneur, je te présente également tous ceux-là qui sont dans les hôpitaux, couchés, qui sont même dans les maisons couchées, afin que tu étends ta puissante main de guérison sur eux. Ô Dieu, souviens-toi, Père, de tous ces orphelins, de toutes ces veuves. Toi qui es le Père des orphelins, le mari de veuves, agis puissamment dans les vies, en les soutenant, en les fortifiant, et en pourvoyant même à leurs différents besoins. Toi, Seigneur, qui libère ceux qui sont en captivité d'une manière ou de l'autre. Tu connais tous ces prisonniers, tous ceux qui sont là parce qu'ils ont commis des crimes, ceux qui y sont même peut-être injustement. Seigneur, manifeste-toi dans ces prisons et laisse que par ta grâce, ils puissent sortir de là étant carrément transformés parce que tu les as visités. Seigneur, te consacre particulièrement aussi cette ville, cet département et tous les villages environnants afin que tu te lèves du haut de ton trône et que tu manifestes ta grandeur afin, Seigneur, ô Dieu, de faire taire les œuvres des ténèbres qui ne font que, Seigneur, tenir en captivité tes créatures et les éloigner, Seigneur, de tes voies. Ô Dieu, viens en tant que roi des rois et Seigneur, régner sur cette ville, ce département, régner, Seigneur, même sur cette nation, Seigneur, le Cameroun. Dieu de grâce, souviens-toi particulièrement des autorités en leur accordant la grâce de te craindre dans tout ce qu'ils vont faire. Et surtout, Seigneur, de prendre les décisions conformément à ta sagesse. Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci, parce que tu connais tous ces différents problèmes que les auditeurs ont, et ceux-là qui n'ont même pas pu appeler ou envoyer des messages. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais le désir de leur cœur, tu connais leurs soupirs, tu connais ceux qui sont en train de gémir. Père, souviens-toi d'eux, et dans ta puissante main, manifeste-toi et agis. Et que toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce te reviennent à toi et rien qu'à toi seul dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Et nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Très chers auditeurs, très chers auditrices, soyez abondamment bénis. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver prochainement sur cette même antenne à la même heure. Vous pouvez retrouver prochainement sur cette même antenne à la même heure. Vous pouvez continuer à envoyer vos messages, à appeler même. Je m'engage particulièrement à prendre votre problème au sérieux et à prier de tout mon cœur jusqu'à ce que le Seigneur agisse et intervienne. C'est aussi le but de cette émission, l'heure de la vérité. Que les honneurs, la louange et la gloire reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir, le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas laisser ce micro sans embrasser de manière très forte ma très chère épouse Josie qui attend que je rentre, et aussi tous mes enfants, et que je les aime et que je les bénis dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous tous, que la grâce du Seigneur demeure sur vous, maintenant et pour toujours, et à bientôt.
Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre.